Épisode 109 du podcast Alimentation. Aujourd'hui, je te parle de la ferme brassicole, la terre à boire ainsi que de leurs spiritueux, leur bière que j'ai goûtée sur place, ainsi qu'un trésor caché à Delson, le laboratoire du brasseur. Et c'est parti! Salut le foodie, bienvenue au podcast Aliment Passion, ici Roger, ton crazy chef. Va tout de suite liker toutes nos pages de médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou X. Tu vas voir toutes les photos de ce que je te parle aujourd'hui, ainsi que toutes les dernières nouvelles quant au podcast. Bien, aujourd'hui, au premier bloc, mais en fait dans les deux premiers blocs, je vais te parler de la terre à boire qui est située à Saint-Blaise-sur-Richelieu, tout juste à côté là, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Je t'ai parlé d'eux d'ailleurs dans les derniers épisodes. Entre autres, j'avais bu une de leurs bières alors que j'avais été manger là, une poutine à la croisée des chemins de Chambly là, à l'épisode 104. Alors, j'en ai profité là, pour aller faire un tour sur place. C'est un endroit magnifique. Là, on y a été, là, c'était une petite journée de fin d'hiver où c'était un peu grisou là, et brumeux. Donc, c'était pas là, le paysage le plus angélique au monde. Mais je peux comprendre que l'endroit va être absolument avec un panorama magnifique là, quand il va commencer à avoir les belles journées d'été. On voit les terres, on voit les champs. Il y a un grand gazebo extérieur, il y a des chaises pour s'asseoir alentour du feu, on voit les champs, on est directement là, vraiment dans une ferme, il y a un silo là, où il y a des barils où ils font vieillir certaines alcools et certaines bières. Donc vraiment là, un très bel endroit, là, c'est vraiment une belle place pour décrocher. On est donc là en Montérégie, juste à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, à Saint-Blaise-sur-Richelieu, au 1375 rue principal. J'avais été là à la base là, pour goûter leur bière. Ça, je vais t'en parler dans le deuxième bloc. Tout d'abord, pour commencer, je vais te parler des spiritueux, des choses que j'ai achetées là-bas, que j'ai consommées à la maison. Ils ont donc là, un côté distillerie. Ils ont deux produits qui font à l'année, là, qui sont toujours disponibles et qui viennent tout juste de rentrer dans les succursales de l'SAQ du Québec. Il s'agit de leur gin terre à boire, un très beau gin forestier, ainsi qu'une vodka. Je vais te parler, là, j'ai pas acheté la vodka, donc je vais te parler du gin, ainsi que d'une eau de vie à l'anis, là, qui est d'ailleurs nommée la brume anisée reflet du terroir. Donc, c'est important, c'est quelque chose que j'ai appris tout dernièrement en parlant avec un vigneron là, du Québec. Les vignerons qui décident de mettre leur vin ou toutes les autres... autant que ce soit les distilleries, donc les produits du Québec qui s'en vont sur les tablettes à la SAQ, ne sont pas automatiquement distribués là, dans les succursales. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille sur place à notre succursale SAQ favorite là, et demander les produits d'une distillerie ou encore d'un vignoble du Québec. C'est la seule façon que les bouteilles se rendent jusque sur les tablettes. Sinon, les bouteilles restent en entrepôt. Donc, super important, s'il y a des produits dont je vous parle et que vous n'avez pas à votre SAQ la plus proche, n'hésitez pas à le demander. C'est comme ça que les produits finissent par arriver sur les tablettes et qui ont des chances d'arriver sur vos tables. Donc, encouragez nos producteurs du Québec et peu importe le produit là, qui est disponible à la SAQ, s'ils ne l'ont pas, demandez-le. Donc, pour les produits terre à boire qui commencent tout juste à être distribués en SAQ, donc tout d'abord pour les spiritueux de terre à boire, le gin forestier de terre à boire, un gin à 40% d'alcool dans une bouteille de 750 ml disponible à la SAQ pour 50$. Le gin renferme des arômes de sapin, de cèdre ainsi que des baies de genévrier. ce qu'eux ont à dire sur leur gin, c'est que ce gin forestier est conçu et distillé de façon artisanale à partir de céréales biologiques cultivées sur notre terre et d'une sélection d'aromates sauvages cueillis dans notre boisé préservé. Son goût équilibré est imprégné de l'essence du terroir et de la flore blaisoise. Sa fraîcheur au caractère forestier est quant à elle obtenue grâce à la distillation de bourgeons de sapin et de cèdres récoltés de manière responsable. Le gin est certifié biologique par EcoCert Canada. Un gin que j'ai beaucoup aimé, qui est très costaud en saveur, évidemment, avec toutes ses saveurs de sapinage. On est un petit peu ailleurs qu'un gin boréal où on va retrouver beaucoup d'épices là, avec les saveurs qui ont été infusées là, avec les bourgeons de cèdre et de sapin. On est vraiment là, d'un côté là, très, très, très sapineux, donc beaucoup plus forestier. On voit vraiment ce côté-là, un côté un peu plus là, de sève, de sapin. On comprend là, ce côté-là très développé. C'est très intéressant. Par contre, c'est quand même assez punché, donc peut-être pas nécessairement pour tout le monde. Personnellement, j'ai bien apprécié, mais dans les styles, je suis peut-être un amateur un peu plus justement de gin boréal. Donc, j'aurais aimé peut-être un peu moins de sapinage, un peu plus d'épices. Mais ça en restait quand même là, un très, très beau gin avec des très belles saveurs. Évidemment, le genévrier se marie très bien avec ses saveurs de sapin-là. Donc, ce côté un peu sapinage, de cèdre, c'était très intéressant. C'est pas du tout amer. Ça aurait été facile de mal doser ces infusions-là de sapinage et qu'il développe une certaine amertume, surtout si on a une tendance là, à aller le boire avec un tonique qui a déjà une base d'amertume. Ça aurait pu être drôle, mais c'est vraiment super bien dosé, donc bien intéressant. Un très beau produit, très content là, de savoir qu'ils ont maintenant leur place sur les tablettes de nos succursales de SAQ. Sinon, là, si vous êtes en train de faire une petite promenade et que vous n'êtes pas trop loin, ça vaut amplement le détour d'aller faire un petit tour, surtout si c'est une belle journée, même si c'est pas une belle journée, c'est un très bel endroit, très accueillant, très chaleureux. Donc, de la terre à boire à Saint-Blaise-sur-Richelieu, que je le répète, tout juste à côté de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, pour leur gin forestier de terre à boire, j'y vais avec 1,4/5. Pour le deuxième produit, je vais te parler là, de l'eau de vie. La brume anisée reflet du terroir, une bouteille de 500 ml, un produit de 45% d'alcool. J'ai perdu ma facture, mais je crois que toutes les bouteilles de spiritueux étaient à 50$, mais je me réserve le droit de me rectifier. Je ne suis pas certain de mon coup pour le prix de la brume anisée. Donc, c'est un produit là, qui est distillé en très petits lots, donc chaque lot est unique. Ce qu'on va dire, c'est que ce distillat s'inspire du raki, a été élaboré à partir d'aromates méditerranéennes et d'une longue macération de marcs de raisin du vignoble 1292 à même notre alcool de maïs. Cette eau de vie typiquement estivale se boit avec une ou deux parts d'eau, beaucoup de glace et de bonne humeur. Encore une fois, ce produit est certifié biologique par EcoCert Canada. Un produit que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Par contre, ça reste une eau de vie à l'anis. Si vous n'êtes pas fan de Pernod, de Pastis, de Sambuca, ce type d'alcool très anisé, ce ne sera pas du tout là, dans votre palette. Donc, l'anis, on le rappelle, ce côté-là de saveur qui aromatise, entre autres, la réglisse noire. C'est donc pas une saveur faite pour tout le monde, mais si c'est votre genre, je crois que vous allez particulièrement apprécier ce produit-là. La brume anisée là, est une espèce d'hybride entre une vodka de maïs et le pastis, ce qui fait qu'on a une espèce de côté très clean, très crisp d'une vodka et le côté très anisé sans le sucre là, d'un pastis. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai essayé de le boire là, autant simplement sur glace qu'avec une coupe de part d'eau. Tout seul sur glace, là, c'est quand même un petit peu rough, mais pour avoir eu dans mes jeunes années quelques cuites, pas dire quelques brosses au pastis avec des cuisiniers français alors que je commençais ma carrière, j'en avais vu d'autres, donc je trouvais même que c'était beaucoup moins rude. Donc justement, ce côté qui vient avec l'espèce de côté hybride qu'on dirait peut-être une certaine vodka, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus crisp, beaucoup moins lourd, autant dans la texture. Il n'y a pas le sucre, il n'y a pas le côté de la viscosité d'un alcool lourd comme le pastis. Donc ça en soi, ça allège beaucoup le produit. Et ensuite, là, une très belle saveur fraîche mais forte d'anis. Donc, ce goût de réglisse noire très pesant. Mais il n'y a pas non plus le sucre qu'il y a souvent dans le pastis. Donc, j'aimais beaucoup ça. Évidemment, encore une fois, pas besoin de me replacer. Vous savez que le sucre, pas nécessairement là, dans ma palette, d'avoir quelque chose qui est over the top. Mais je trouve que ça rendait le produit d'autant plus appréciable qu'il ait enlevé ce sucre-là là, qui peut être très lourd avec la côté anisée. Là, ça donnait juste une belle fraîcheur puis ça donnait toute la place à cette saveur, bien que très forte, de l'anis. Donc, beaucoup aimé ce produit-là. Je pense que ça peut être un produit que tu vas autant prendre juste avec une toute petite part sur un glaçon ou encore à boire là, dilué avec de l'eau là, comme un pastis. Produit très intéressant, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, ça tombe pas mal là, dans ma palette. Donc, pour la brume anissée, reflet du terroir de Terre à Boire, j'y vais avec un 4 sur 5. Pendant qu'on était là et qu'on faisait nos achats au comptoir, j'ai vu une sauce forte. Je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que cette sauce-là faisait là. Ça n'avait pas l'air d'être du tout fait par eux. C'est une sauce faite par Lady Killers là, de Montréal. Et c'est après me l'être fait expliquer par les gens là-bas. C'est une sauce piquante jerk au gin. Et évidemment, le gin utilisé et le gin de Terre à Boire. Donc, je trouvais ça super intéressant. Une sauce là, qui s'appelle... Tout simplement, la Lady Killers, le O, Jerk au Gin, c'est une édition limitée. Les ingrédients, c'est des piments Scotch Bonnet, Scorpion, Trinidad, Maruga, le gin, de l'oignon vert, de l'ail, des oignons, de la lime, du tamari, des herbes, des épices, entre autres de la cannelle, du sucre de canne biologique. Bon, quand même, une belle consistance. Évidemment, avec les légumes, ça lui donne cette chance-là. Souvent, sinon, on utilise la gomme de Xanathan pour l'amener à une certaine texture. Là, pas du tout. Une saveur quand même. Et c'est côté, encore une fois, les sauces piquantes. Il n'y a pas d'échelle officielle. Là, chaque compagnie y va avec sa propre échelle. Celle-là est quand même cotée à 5 piments. C'est une bouteille là, de 140 ml, donc 5 onces, là, qui est en vente là, directement au Terre à Boire au coût de 18 $. Je ne te cacherai pas que je trouvais que c'était un petit peu cher absolument la sauce piquante. J'aime bien aller là, pour 10-12 $, mais pour un produit limité là, qui était fait avec un produit que j'étais en train de tester, je me suis dit bon, ok, c'est bon, on y va l'essayer. Un très beau produit, vraiment intéressant. Un gros punch, je t'ai parlé quand même dernièrement là, de quelques sauces, là, autant barbecue que sauce piquante là, qui était au jerk. Cette pâte-là de la cuisine jamaïcaine ou qui comprend un paquet de mélanges de légumes et d'épices différentes, là, qui est quand même assez piquant, fait avec le piment Scotch Bonnet. Effectivement, c'est une sauce qui était assez piquante, une texture intéressante. Les saveurs étaient très intéressantes. Habituellement, on a des saveurs d'épices qui sont quasiment plus fortes même que le piment. Là, je trouvais qu'il y avait une espèce de bel équilibre avec une légère acidité. Un côté du piment qui était très intéressant. Évidemment, c'était très fort, mais des belles saveurs, j'aime bien ça. Et l'espèce de mélange d'épices, j'ai l'impression qu'ils ont été un petit affaire plus fort sur la cannelle. Moi qui ne traite pas cannelle là, pantoute là, en temps normal, mais là j'ai l'impression qu'ils ont été juste un petit peu plus généreux dans leur proportion de cannelle. Je trouve que ça a amené quelque chose. Je trouve que c'était intelligent, c'était brillant, c'était bien pensé. Ils ont été chercher une espèce d'équilibre avec les saveurs un peu plus végétales, un peu plus acidulées. D'avoir ce côté un peu espèce boisé là de la cannelle, c'était pas trop fort et ça venait très bien se marier avec la sauce, donc ça faisait une sauce qui était très bien équilibrée en saveur, bien qu'elle soit très piquante. Encore là, pour moi, très piquante, ça veut quand même dire que c'est mangeable si t'as une bonne tolérance au piment, quelque chose là, qui est juste absolument piquant pour être piquant, puis que tes plombages fondent, puis il faut que tu t'achètes un nouveau partiel. Ça m'intéresse pas, là, c'est juste... un défi là, pour faire des vidéos. C'est pas mon genre. Je veux que ça goûte. Je veux être capable d'en manger. C'est tout à fait le cas ce fois-ci. Là, donc, ça donne une bonne chaleur, évidemment, avec les épices en plus. Ça vient un peu réchauffer l'intérieur. Mais des très belles saveurs. On peut quand même le marier à beaucoup de saveurs. Ce qui n'est pas nécessairement évident là, avec beaucoup de sauces à saveur jerk. Des fois, c'est un petit peu plus touché de savoir avec quoi je vais pouvoir le marier. Ce cas-ci, là, je pense qu'il est un petit peu plus passe-partout. Là. Ça pourra peut-être pas aller avec absolument tout ce que tu vas manger. Mais ça va être là, une sauce d'accompagnement général très, très bien. Donc, pour la sauce Lady Killers Jerk au Gin, qui utilise le gin Terre à Boire, encore une fois, un très beau produit. On y va encore à 4 sur 5. Et pour terminer ce bloc-là, je vais te parler d'une assiette là, que j'avais pris en grignotant avec mes bières alors que j'étais directement chez Terre à Boire. Apparemment que c'est une de leurs nouvelles assiettes. C'était l'assiette de hummus servie avec des chips de pain pita. Moi, je trouvais ça intéressant. On cherchait à avoir une petite grignotine pour prendre avec nos bières. J'avais déjà été là, au laboratoire. Oui, je me suis promené pas mal cette journée-là. J'avais déjà été au laboratoire là, du brasseur que je vais te parler dans le troisième bloc. Et après ça, je m'étais rendu à Terre à Boire là, plus tard en après-midi. Donc, je voulais faire sûr d'avoir un peu de solide dans l'estomac. Donc, quand j'ai vu ça, là, humus de pois chiche avec des chips de pita, je me suis dit ça va être parfait. Des petites saveurs simples là, avec quand même là, le pois chiche qui va donner un côté protéiné. Ça va nous souvenir bien comme il faut. Donc, l'assiette est toute intéressante, toute simple. Un bel humus, clean, portion qui avait quand même beaucoup d'allure. Je pense que c'était une assiette à 8$. Quelque chose de très raisonnable pour avoir là, un petit snack food là, pendant que tu fais une dégustation de bière. Je trouvais que la chip de pita, comme je te dis, on est habitué d'en faire là, à la maison, d'autres, avec des épices quand même assez relevées. Donc j'avais l'impression que la chip de pita en soi était super croustillante à ce niveau-là. La cuisson était bonne, mais aurait pu avoir un peu plus d'assaisonnement. Je me suis dit c'est peut-être un peu fade. Finalement, quand je l'ai goûté juste avec l'humus, c'était limite. Mais sur l'humus, là, il y avait un petit peu de morceaux d'oignon rôti mariné, ainsi que de l'aubergine rôti mariné aussi. Donc, quand on découpait là, des tout petits morceaux de légumes marinés dessus, ça venait tout se rassembler et ça valait vraiment la peine. Donc, le seul petit point négatif serait peut-être d'avoir des morceaux coupés plus petits, afin qu'on ait un petit peu de cette... de brunoise, de tout ce petit mélange de légumes marinés un peu partout sur l'humus, puisque tout le côté assaisonnement venait s'équilibrer quand on venait manger l'humus et la chip avec des morceaux de légumes marinés. Donc, quelque chose de tout simplement simple et bien fait. Un bel humus crémeux, une belle portion, aussi une belle portion de chips de pita et les quelques morceaux là, de légumes marinés qui venaient vraiment tout enrober là, toutes les saveurs qu'on avait besoin pour aller chercher les assaisonnements qui, quand on goûtait les autres éléments à part, pouvaient passer là, pour sous-assaisonner, mais tout ensemble, tout marchait. Donc, quand même, au total, super bien pensé. Le seul petit point, là, ça aurait peut-être été d'avoir les morceaux, comme je t'ai dit, de légumes marinés coupés un peu plus petits pour qu'il y en ait partout et qu'on en aille sur chacune des bouchées pour pouvoir avoir des bouchées toutes assaisonnées. Donc, un petit plat là, super bien pensé. Très simple, là, qui j'espère va faire son petit bout de chemin. Il disait que je pense que c'était très nouveau. Donc, n'hésitez pas, gardez-le. Ça fait tout à fait la job. Et c'est différent, honnêtement. Je n'ai pas vu ça beaucoup, là, une assiette de chips de pita et humus. Là, ça marche très bien, donc j'aime bien ça. Donc, pour l'assiette pita humus comme snack food à la microbrasserie Terre à Boire, une assiette très raisonnable à 3,5 sur 5. Ça vaut vraiment la peine avec votre petite palette de bière en dégustation. D'ailleurs, c'est là qu'on s'en va au deuxième bloc. Pour le deuxième bloc, j'y vais avec les bières de Terre à Boire. Donc, j'ai tout simplement pris une palette de dégustation, comme c'est souvent possible d'avoir dans les microbrasseries. Toutes les bières sont très bien affichées sur un écran là, à l'entrée, ainsi que dans la salle de dégustation à l'intérieur. Il s'agit de faire tes choix, tes donnes. Ils vont te les placer en ordre et aussi là, écrire les bières que tu as prises, parce que ça se peut que Palpal, Georges, rendu à la troisième bière, tu te rappelles plus c'est quoi que tu avais choisi. Il n'y a pas de problème, c'est écrit sur ta palette. Tu as juste à te référer à l'écran et jeter un coup d'œil pour te rappeler qu'est-ce que tu avais choisi et où tu es rendu dans ta dégustation. Donc, c'était une palette de 4 choix. Ma première bière était la Codbuster qui est une bière historique à 4,1% d'alcool et 19 IBU. Ce que eux ont à dire pour la description de leur Codbuster, eh bien, c'est une bière qui est faite en collaboration avec Belle Gueule. La Codbuster, c'est une bière de style allemande qui possède un goût herbacé, des notes florales ainsi qu'une pointe mielleuse. Par respect de la recette originale, des houblons nobles tels que le Saaz, le Tettnang et l'Alerto ont été utilisés ainsi qu'une levure neutre, rafraîchissable et bien peintable. un petit peu d'histoire, cette bière a été développée par les brasseurs du village de Cottbus en Allemagne. Elle était brassée à partir d'orge, de blé, d'avoine, de mélasse et de miel. L'application stricte de la loi de la pureté a mis fin à la production de cette bière d'époque. À partir de ce moment, les seuls ingrédients qui pouvaient être utilisés pour faire de la bière étaient l'orge, le houblon et l'eau. Ce style historique, considéré rebelle, a dernièrement été ramené à la vie par les brasseries artisanales. Heureusement, de nos jours, les brasseurs peuvent recommencer à être créatifs sans avoir à satisfaire cette loi stricte. Si vous avez déjà rencontré Samuel, propriétaire et brasseur chez Terre à Boire, vous comprendrez tout de suite d'où provient le nom de cette bière. Une mention spéciale à Jean-Philippe Barbeau pour ce clin d'œil. Donc, une petite bière très fraîche, très simple, bien intéressante. Beaucoup en finesse, une micro-bulle très, très, très fine. Donc, on avait beaucoup de légèreté. Donc, comme première bière dans ma dégustation, c'était parfait. Vraiment très fin, là, c'était presque velouté là, au niveau de la texture. Donc, à ce niveau-là, c'était très intéressant, très léger quand même là, pour une bière en général, 4,1% d'alcool. Beaucoup de fraîcheur, très légère, bien appréciée. C'est une bière qui n'a pas un profil de saveur extrêmement deep, mais très intéressant, comme je te dis, là, avec une légèreté, une fraîcheur là, qui était parfait pour commencer cette dégustation-là. Là, la palette était très bien amorcée. Donc, des notes simples, très légers, un petit peu de floral, un petit peu de céréales, très simple, surtout au niveau de la texture, donc la microbulle que je te dis qui donne un effet presque velouté à la bière. Je pense que c'est vraiment là qu'elle se démarque. Très simple, on commence tranquillement, mais avec quelque chose de très bien pour la Codbuster de Terre à Boire, 3,25 sur 5. Pour la deuxième bière, j'ai été choisir la Grande Ligne. La Grande Ligne étant une lager mexicaine à 4% d'alcool. Ce qu'on a à dire sur cette bière-là, c'est que cette lager de maïs de style mexicain est la première bière de Terre à Boire qui rend hommage à la localité. Grande Ligne est l'un des noms qui a été désigné Saint-Blaise au 19e siècle. Elle est fièrement brassée avec le maïs non malté et les maltes Vienna et Pilsner de nos champs. Bière de soif crémeuse où s'allie la légèreté du maïs au saveur prononcé d'orge, elle mettra assurément du soleil dans votre journée. Un autre bière avec beaucoup de simplicité, beaucoup de fraîcheur, de la légèreté, la céréale, le côté céréal de maïs là, qui est très intéressant. Quelque chose de simple, quelque chose de bon, quelque chose qui était à la limite de la bière de soif, mais qui est bien fait et qui a des saveurs distinctives. Ils sont tout simplement très délicates là, et on va vraiment vers ce fraîcheur, cet côté vraiment de lager mexicaine. Donc, pas énormément là, de choses à dire dessus, sinon que ça a été bien fait. Il y a une belle fraîcheur et j'aime beaucoup cette petite finale de maïs-là. Là, donc, un petit peu la saveur du maïs, légèrement le côté presque sucré du maïs qu'on réussit à déceler en fin de bouche. Très intéressant, très simple, bien exécuté. La Grande Ligne, là, qui est la lager mexicaine de Terre à Boire, un 3,25 sur 5. La prochaine bière était la Saison à l'épeautre, une Farmhouse Ale de saison à 6,8% d'alcool. Ce qu'eux en disent, conçue pour mettre en valeur notre épeautre biologique, cette saison se déploie en arômes épicés typiques des levures belges et en délicates notes de houblon frais. L'épeautre lui confère une touche herbacée et rustique ainsi qu'une texture ample et soyeuse. J'ai beaucoup aimé cette bière-là. Là, j'en ai d'ailleurs là, acheté une bouteille pour apporter à la maison. Quelque chose de très frais, très crisp. Une saveur d'épeautre là, qui rappelle un petit peu une espèce de mélange là, d'herbe et de blé. Beaucoup de légèreté, très douce au corps. Ça rappelle le côté smooth d'une lager avec une légère caramélisation. Très belle exécution, une belle mousse. Une bière qui a quand même beaucoup de saveur, ça reste quand même léger dans le style pour une farmhouse là, de saison. Beaucoup de saveur, mais quand même beaucoup de subtilité. Donc ça faisait quelque chose de smooth à boire, qui rappelait un peu ce côté clair là, de bière belge, ce côté de levure belge. Et très distinctif, là, c'est très dur là, d'utiliser ces produits-là et de ne pas le déceler aux palettes. Donc évidemment, on le note dans des saveurs franches de bière belge. Très intéressant, beau mélange, beaucoup, comme je te dis, de petites subtilités, pas de complexité. Ce n'est pas des saveurs qu'on se demande comment ça se fait qu'ils marchent ensemble. Tout marche ensemble, c'est simple, c'est délicat. Vraiment, là, une super belle exécution, comme je te dis. J'ai acheté une bouteille supplémentaire pour amener à la maison. Je vais boire ça avec des chums. Là. Donc, ça va être un très beau produit là, qui, j'espère, va se faire distribuer un peu partout. Très beau produit de Terre à boire. La saison à l'épeautre, 1,4 sur 5. La dernière bière que j'ai prise chez Terre à boire, c'est la vin d'orge version 3. Donc, une vin d'orge de 10,1% d'alcool. Oh, ça commence à être costaud. Donc, ce qu'eux disent, c'est « Notre vin d'orge revient en force cette année pour vous réchauffer. Ce barley wine de style anglais a vieilli tout près d'un an en baril de whisky. Ce passage lui confère un séduisant côté vanillé et une belle robe cuivrée. Du haut de ses 10,1% d'alcool, palais sensible s'abstenir. » Donc, vraiment, une bière que j'ai bien aimée, un côté très caramélisé, vraiment au point que c'était mélasse, beaucoup de corps. Une saveur de blend de Scotch Whisky. On avait vraiment dénoté cette saveur très simple, en fait très claire, de Scotch Blended. Donc, bien alcoolisé. C'est très présent. Quelque chose de très bon. Mais je trouvais que c'était. Il y avait des, bien qu'il y avait toutes ces belles saveurs-là, c'était encore sur le rough. J'ai l'impression qu'il manquait peut-être un peu de finition. Peut-être que ça aurait peut-être dû être barriqué moins longtemps ou plus longtemps. Là, c'était toutes sortes de saveurs qui devaient aller ensemble, mais qui n'étaient comme pas homogénisées. Ça me donnait l'image de quelqu'un qui avait fait une recette, genre une grosse pâte à crêpes, puis qui n'avait pas fouetté assez longtemps. Là, on voyait encore des bouts de jaune d'œuf, un petit peu de lait qui flottait sur le dessus. C'était toutes des affaires qui étaient bonnes, puis qui étaient bonnes ensemble, mais qui, on dirait, qui n'avaient pas réussi à être bien amalgamées toutes l'un à l'autre. Donc, je pense que c'est au niveau peut-être du vieillissement, soit que ça a été vieilli un peu trop longtemps, ou pas tout à fait assez, bien qu'il était à 10,1% d'alcool. Je pense que ça aurait peut-être mérité là, un petit ajustement au niveau du vieillissement, mais c'était quand même là, quelque chose de très bien. Donc, comme je te dis, le côté caramélisé là, qui allait chercher ce côté mélasse-là, en plus du côté blend scotch whisky, c'est peut-être ça aussi. J'aime pas le scotch qui est blended. Donc, c'est peut-être... je vais être obligé de prendre... c'est peut-être ça. Je suis pas amateur de ce type de saveur-là, puis je l'ai très bien identifié. Fait que c'est peut-être ça qui a un peu faussé mon appréciation. Fait qu'on va quand même garder ça en note. Mais ça reste là, que c'était... Il manquait d'homogénéité, là, même si c'est une saveur que j'aimais pas. Elle aurait dû quand même rentrer là, dans le processus et j'aurais pas dû avoir l'impression que je goûtais à plusieurs choses séparées au lieu de goûter une saveur puis déceler les subtilités par après. Donc, une bouteille très intéressante. Ça. Ben, c'est pas une bouteille, c'est une chose de dégustation. C'est pas que j'en ai ramené une bouteille à mon chum Yves. Donc, une bière très intéressante. La vin d'orge, c'était probablement la V3, donc la troisième. Un beau produit, manque une petite coche là, pour l'amener au prochain niveau, mais un produit fort appréciable. Donc, c'était ça, là, la vin d'orge, troisième version, probablement la troisième année qu'ils la font. Je pense qu'il y a peut-être encore un petit peu de travail à y aller là, au niveau de l'exécution, mais on est clairement sur la bonne voie. La vin d'orge, 20,3 à 10,1% d'alcool de Terre à boire, 3,75 sur 5, et c'est ce qui termine le deuxième bloc pour aujourd'hui. Pour le troisième bloc, je vais te parler d'un petit trésor caché là, à Delson, la microbrasserie et bar, le laboratoire du brasseur. C'est au 77 boulevard Georges Gagné Sud. C'est un tout petit local, là, une place où il y a, écoute, j'ai compté le nombre de bancs à chaises qu'il y avait là, puis je pense qu'il n'y a pas 20 places assises. Là. Il peut y avoir des gens debout, là, peut-être avoir une vingtaine de personnes, mais d'après moi, je ne peux pas arriver là faire un party avec 50 personnes. Là. Oublie ça, là, c'est tout petit. Il y a une porte, je me suis stationné, c'est comme un petit genre de mini là, complexe commercial là, avec des business. Je me suis parké comme de l'autre côté, je pensais que j'étais passé tout droit. Je m'en allais rembarquer dans mon camion et m'en aller chercher là, l'adresse. Finalement, en me promenant dans le parking, je me suis rendu compte que les chiffres qu'on descendait, donc c'était pas juste des numéros de condo. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite porte là au 77. Et c'était c'est tout noir. Donc je me demandais même là, si j'étais pas pour me faire me faire dire que c'est un bar privé et que j'étais pas à ma place. Donc, j'ouvre la porte et cette petite place chaleureuse à souhait. Le propriétaire qui était au bar, écoute, ça donne en soi l'expérience, un espèce de savant fou. Ça va te donner là, une impression d'un espèce de d'hybride là, entre un spectacle de feu d'artifice et un spectacle de Bruce Springsteen. Donc, tu vas avoir tout un show. Attache tes bretelles, assis-toi au bar. Tu vas en avoir pour ton argent. Donc, oui, la bière est bonne. Mais ce qui est encore meilleur, c'est l'ambiance que le brasseur et propriétaire vont avoir là. Écoute, une espèce de verbomoteur énergique à souhait là. Tu vas avoir du fun, c'est certain. Donc, prends-toi un petit tabouret au bar. Jase un peu, les gens sont super familiers. Il y a beaucoup de réguliers là, qui sont là. Je pense qu'ils sont là de façon régulière. Ben oui, c'est pas mal ça que ça fait un régulier. C'est là de façon régulière. Donc, tout d'abord, la première bière, c'est la Munich Helles Light, une IPA Farmhouse à 4,6% d'alcool. Des bières très simples. D'ailleurs, il y a le format autant en taster qu'au verre. Donc, ça donne la chance d'essayer les bières sans nécessairement qu'il y ait de palette. Tu peux avoir là, les petits verres et goûter là, les produits qu'ils font. Si tu veux, tu peux aller déguster au verre aussi. Comme je t'ai dit, tu vas avoir du beau temps là-bas. Ne te gêne pas. Donc, la Munich Helles, une bière tout en toute simplicité, une belle céréale, une belle légèreté. On n'a pas tant le côté IPA, on va un petit peu plus vers le côté presque Lager Farmhouse. J'ai beaucoup aimé ça. Très simple, très doux, une bière sèche. C'est le genre de place qui fait les genres de bières qui me plaît beaucoup. C'est des choses intelligentes, simples et bien exécutées. C'est pas nécessairement dans la complexité. On va chercher les choses traditionnelles et on les fait bien. J'apprécie beaucoup ce type de microbrasserie-là. Je pense que c'est de loin les brasseries qui vont survivre au temps. On entend beaucoup parler là, des problèmes des microbrasseries au Québec, mais il y en a beaucoup qui en font peut-être trop. Là. Donc, justement, de bien faire les choses simples, ce que les gens connaissent, c'est ce que les gens veulent et ils veulent en avoir de bonne qualité. On est exactement là, dans ce type d'exécution-là au laboratoire du brasseur. Donc, pour la Munich Helles, la IPA Farmhouse, tout en simplicité, belle exécution, 3,5 sur 5. Ensuite, j'y étais avec une Mild Ale, donc c'est une Mild Dark de 3,6% d'alcool, un style très simple là, qui date de l'Empire britannique là, du 17e siècle. Donc, on n'a rien inventé, encore une fois, juste de la belle exécution, quelque chose de très maltais, très crémeux, un beau collet, une mousse épaisse, un côté rôti torréfié de noix, ce côté vraiment une belle torréfaction, sans qu'on aille du côté stout café. Là, j'aime vraiment un côté de malt rôti torréfié qui nous amène énormément de saveur. On est beaucoup, beaucoup dans ce type-là. Une bière justement un peu plus style britannique, donc des saveurs un peu plus punchées, un pourcentage en alcool un peu plus bas, une bière qui a beaucoup de corps, qui va chercher un max de saveurs des quelques saveurs présentes. Encore une fois, je te le dis, les choses simples qui sont bien faites. C'est exactement ça qu'on veut, c'est exactement ça qu'on a. La Mild Ale du laboratoire du brasseur, 4 sur 5. J'aime beaucoup ce type de bière-là quand c'est fait avec autant de minutie. Ensuite, la Punk Hops. La Punk Hops, qui est une IPA américaine, 4% d'alcool et 9 IBU. Une IPA très crémeuse, un beau côté fruité, une bière très sèche, une espèce d'amertume qui m'a comme pris par surprise. C'était pas une amertume de houblon pur, c'était comme une espèce d'hybride d'amertume de pelure d'orange qui a été légèrement houblonnée. Ça amenait quelque chose de complètement différent. Je ne peux pas dire que j'ai été autant habitué à ce type-là là, au niveau de la IPA américaine. Donc, quelque chose de très intéressant. Beaucoup de doigté, beaucoup de réflexion, belle exécution. Vraiment quelque chose là, qui avait un petit quelque chose auquel je restais accroché, qui aurait peut-être plus facilement tombé dans l'oubli. Mais cette espèce de légère finale, comme je te dis, d'amertume, avec le côté légèrement orange et houblonné. Là, il y en avait comme peur qui prenait le dessus. C'était une espèce de mix hybride des deux. Les deux saveurs étaient là, sans qu'ils travaillaient bien ensemble. Donc, quelque chose de très beau, très frais, mais qui avait ce côté quand même IPA. Et la finale, avec cette amertume pas trop forte, mais différente, qui était bien aromatisée. Beaucoup aimé cette bière-là. Un style pourtant que je connais et qui me fait pas triper, mais là, l'exécution a fait la différence. Punk Ops, la IPA américaine de Laboratoire du Brasseur de Delson, 3.75 sur 5. Et ensuite, ce qui semblait là, être un classique de la place, du moins une bière très populaire, là, j'ai vu à peu près tout le monde boire ça là, à un moment donné ou l'autre là, du temps que j'ai été là, c'est la Blanche à l'Orange, une wheat beer de 5.4% d'alcool. Tu vas voir là, sur les photos, là, c'est toujours servi avec là, un petit quartier d'orange séché. Une orange wheat beer très smooth, avec une tête très légère, un petit côté de coriandre fraîche dans le corps, mais pas trop. Il y a vraiment là, un très bel amalgame, évidemment, dans la wheat beer, qui est cette bière blanche de blé-là, très traditionnelle. On est habitué de voir ces saveurs-là, l'orange, la coriandre, c'est vraiment rendu là, des standards. On n'a plus besoin là, de... On n'en est plus surpris, là. C'est vraiment le standard de l'exécution. Mais il y a eu un très beau contrôle des saveurs, une belle délicatesse, une belle touche. Il y a eu un équilibre des saveurs que je ne vois pas souvent. Ça reste une bière qui est très simple. Il n'y a pas nécessairement de saveurs qui vont sortir de nulle part, qui vont te sortir de tes shorts, puis qui, à la limite, n'ont pas d'affaires là. Tout ce qu'il y a dans cette bière-là a d'affaires là, mais c'est fait avec beaucoup de simplicité. Ça a été très bien dosé. Il n'y a pas un élément qui prend le contrôle sur l'autre. Évidemment, ça reste une blanche à l'orange, donc il y a une saveur d'orange qui est quand même très perceptible. Ceci dit, il y en a qui font ça, puis ça goûte juste le jus d'orange qui a été trop longtemps dans ton frigo. Là. On n'est pas là pantoute, ça a été fait avec beaucoup d'intelligence, de justesse, beaucoup de fraîcheur, quelque chose de très appréciable, avec des petites notes subtiles qui viennent quand même bien marier le tout. Rien qui a été réinventé dans cette bière-là, mais encore une fois, quelque chose de simple qui a été bien fait. Donc, la blanche à l'orange, comme je te dis, là, j'en ai vu quand même beaucoup de personnes là, qui étaient en train de boire ça pendant que j'étais là. Donc, ça semble être là, un de ces gros vendeurs. Là. Un 3.5 sur 5. Vraiment, les bières sont bonnes, mais l'ambiance est absolument exaltée. Donc, si tu veux aller prendre une petite bière tranquille, puis avoir là, un petit moment à toi, dans toute la tranquillité, c'est peut-être pas la place, comme je te dis, le propriétaire barman est absolument survolté, mais c'est ce qui fait son charme et qui rend la place tellement agréable. De ce que j'en ai compris, là, les réguliers sont très réguliers. Là, semble avoir des travailleurs là, qui ont des contrats dans ce coin-là, qui se ramassent là quasiment à tous les jours, ou du moins plusieurs fois par semaine. Donc, c'est petit, c'est cosy, ça fait probablement ce côté un peu rassembleur. Ça crée évidemment une ambiance. Tu peux pas être dans un endroit aussi petit avec des gens régulièrement et qui ne se crée pas une espèce d'énergie dans l'air. En plus, comme je te dis, le propriétaire est électrique à puissance à peu près 12 000. Donc, c'est clair que tu vas avoir un bon moment, même si comme moi, là, tu y vas juste en après-midi goûter une coupe de bière. Tu vas passer un excellent moment. Tu vas apprécier, tu vas avoir des très bonnes bières. Tu vas être super bien servi, tu vas partir le sourire aux lèvres. Tu dois aller faire un tour dans ce petit trésor caché qu'est le Laboratoire du Brasseur à Delson au 77 boulevard Georges Gagné Sud. Prends le temps de te stationner et de faire le tour si tu ne le trouves pas. Marche à pied, tu vas le trouver là, dans l'espèce de petit centre commercial. Ça vaut amplement le détour. Évidemment, là, c'est le genre de petite place qui, dû au manque de personnel, là, peut peut-être varier ses heures là, d'ouverture. Donc, jette un œil sur leurs médias sociaux. Trouve le numéro de téléphone, passe un coup de fil, tant qu'à te déplacer si t'es pas de ce coin-là, pour être sûr qu'il y ait quelqu'un pour te servir sur place, mais ça vaut amplement le détour. Le Laboratoire du Brasseur à Delson, c'est ce qui complète l'épisode pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Aliment Passion. N'oublie pas, va t'abonner. On est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit les plateformes populaires Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Sinon, on est disponible partout. Balado Québec, Podcatcher, Podchaser, iHeartRadio. Tu t'abonnes, assure-toi de mettre un 5 étoiles, un commentaire. Abonne-toi au podcast. Le podcast va être downloadé directement dans ton appareil dans la nuit du mercredi au jeudi. Le jeudi matin, tu vas avoir toutes tes suggestions foodie pour le week-end. En attendant, ici Roger, ton Crazy Chef, qui te rappelle, faut arrêter de faire des recettes, il faut cuisiner. Bye bye!